Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre des livres en dialogue de la FMSH. Alors, nous avons le plaisir ce soir d'échanger avec vous, Gwendoline Chicotini. Donc, vous êtes l'autrice de Relations interdites, prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui est publiée aux éditions de la Maison des sciences de l'homme dans la collection Bibliothèque allemande. Une collection très riche hein, qui, depuis 1984, publie des recherches en sciences humaines sur des sujets franco-allemands, mais aussi des traductions. Alors, votre essai, qui comporte de nombreuses photos, des lettres, mais aussi des graphiques quantitatifs, en fait, résulte de votre travail de thèse, qui a été soutenue en 2020, pour laquelle vous avez été récompensée du prix Michael Werner l'année suivante. Et il s'appuie sur les archives de 14 000 procès pour relations interdites, ce qui en fait est un très petit nombre par rapport aux chiffres réels supposés et malheureusement difficilement, voire impossible à quantifier. Quant à vous, donc Gwendoline, vous êtes historienne au mémorial du camp de Sandbostel et vos recherches, donc elles portent évidemment sur les prisonniers de guerre français, l'histoire du genre et de la sexualité et plus largement sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, avant de nous immerger ensemble dans cet essai passionnant, passionnant parce qu'il allie à la fois une rigueur dans le travail de recherche historique et des témoignages intimes. J'aimerais souligner son caractère absolument inédit. Beaucoup d'ouvrages ont été consacrés aux relations des femmes françaises avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les relations entre les prisonniers de guerre français et les femmes allemandes jamais n'avaient fait l'objet d'une étude approfondie comme celle-ci. Donc peut-être pour commencer tout simplement, Gwendoline Chicotini, comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce sujet? Comment est-ce que vous l'avez découvert?
Alors déjà, j'aimerais, avant de répondre à la question, dire bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour m'écouter ce soir et merci au comptoir de nous accueillir pour cet événement ce soir. Et merci au Sierra pour lequel avec lequel j'ai gagné le prix de thèse et sans lequel le livre n'aurait pas pu voir le jour. Ensuite, donc pour votre question, c'est pas évident, c'est proche.
Comme ça. Okay. Très proche.
Merci pour votre question. Alors effectivement, c'est un sujet qui a été très peu étudié. Et je pense que ça a été effectivement le but de la thèse, après avoir fait mon mémoire de master sur les enfants franco-allemands de manière générale, j'ai constaté qu'effectivement, du côté français, il y avait beaucoup plus de choses qui avaient été faites, notamment par l'historien Fabrice Virgili. Et du côté allemand, il y avait assez peu de choses, à la fois sur les enfants, ça a été, on va dire, le point de départ des recherches. Et en faisant des recherches en voulant en savoir plus sur ces enfants nés de ces relations du côté allemand, je suis tombée sur ces archives, cette masse d'archives, j'ai envie de dire, des procès judiciaires de femmes allemandes qui ont été condamnées pour avoir eu des relations interdites avec des prisonniers de guerre français. Ce qui explique ce caractère inédit, je pense qu'il y a différentes choses. Tout d'abord, je pense qu'il y a eu... parce qu'il y a du côté français, du côté allemand, donc c'est deux historiographies différentes, on va dire. Du côté français, je pense que d'abord, ces relations ont été tout simplement peu abordées par les prisonniers de guerre eux-mêmes, ce qui fait qu'il y avait une espèce de tabou autour de ce sujet-là. Et ensuite, au niveau des sources, car il y a effectivement, entre-temps, évidemment, eu beaucoup de recherches sur les prisonniers de guerre français, notamment l'ouvrage de Yves Derand dans les années 70, qui avait travaillé sur des entretiens faits auprès de prisonniers de guerre français dans les années 50, 60-70. Et dans ces questionnaires, on parlait pas trop des relations interdites avec les femmes allemandes, mais ces dossiers judiciaires existaient à cette époque, mais n'étaient probablement pas inventoriés. Ce qui fait qu'on avait d'un côté le tabou des hommes qui n'ont pas forcément parlé de ces relations et aussi aucune source.
Justement, j'en viens à la question du tabou. Quelles sont les raisons Quelles sont les hypothèses que vous pouvez émettre quant à cette occultation? Est-ce que c'est lié, puisque dans l'essai, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il est aussi énormément question de la sexualité, du contrôle du corps des femmes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Est-ce que cette occultation est liée à une honte sociale, à un tabou, à une volonté d'effacer une partie de l'histoire, à une masculinité mise en danger?
Là encore, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, bon, du point de vue des prisonniers de guerre français eux-mêmes à l'échelle individuelle, je pense que c'était vraiment tout simplement un tabou à l'échelle de la famille de parler de ce genre d'histoire. Ensuite, au niveau collectif, si les prisonniers de guerre eux-mêmes n'en ont pas parlé, c'était pas un sujet complètement occulté du point de vue des autorités, puisque pendant la guerre, les autorités étaient au courant, puisque tous ces procès, on reviendra plus tard sur les sources, mais que j'ai trouvé aux archives en France, étaient finalement des copies qui étaient envoyées entre l'Allemagne et la France. Donc les autorités étaient au courant. Après la guerre, pourquoi les autorités n'ont pas mis ça au grand jour? Je pense que c'est assez... Oui, on peut pas être sûr des raisons là, mais je pense qu'effectivement, comparé je parlais de l'historien Fabrice Végélie qui a aussi travaillé sur les femmes tondues et sur l'épuration qui s'est passée à la fin de la Seconde Guerre mondiale et où les femmes françaises ont littéralement été lynchées dans les rues pour avoir eu des relations avec des soldats allemands. Et du côté des prisonniers, quand les prisonniers de guerre français sont revenus, on n'a pas du tout parlé de ça. Donc effectivement, les prisonniers de guerre français n'auraient pas eux-mêmes parlé de ces relations. Et finalement, ces relations interdites, elles sont restées de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, là où elles étaient plus visibles, puisqu'en France, si les prisonniers de guerre n'en parlaient pas et si les autorités n'en parlaient pas non plus, c'est resté tout simplement caché et après tombé dans l'oubli.
Mais alors, ce qui est très intéressant, et justement au début de votre essai, le travail repose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents juridiques, hein, très détaillés, on verra pourquoi plus tard, notamment une abondance de détails lors des... Il y a une abondance de détails, ça va mieux comme ça? Une abondance de détails dans cet essai qui sont issus des procès, des auditions, des instructions sur ces relations, aussi sur des témoignages d'enfants nés de ces relations que vous avez recueillis en Allemagne. Et vous nommez aussi deux associations, Ersen ohne Grenzen, Cœur sans frontières, et l'Amicale nationale des enfants de la guerre. Ce sont deux associations allemandes, ce qui du coup m'a posé deux questions. Est-ce que ces associations, vous en étiez plus proche de par votre travail de terrain? Et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté concrètement? Comment vous ont-elles aidé?
Alors déjà, pour rectifier, ce sont deux associations franco-allemandes et on va dire que Cœur sans frontières est plutôt basé en France, l'ANEG est plutôt basé en Allemagne.
L'ANEG, c'est l'Amicale nationale des enfants de la guerre.
Oui, bon, ce sont deux associations. Ce sont deux associations en tout cas franco-allemandes. Oui, se passe pour Cœur sans frontières, un petit peu plus de choses en France et pour l'ANEG, il y a un peu plus de membres allemands. Bon, en tout cas, ce ne sont pas des associations allemandes. Et ce que les associations m'ont apporté, ça a été vraiment l'entrée dans le sujet finalement. Alors là, je remonte aussi encore à mes recherches de mémoire de master. Et j'ai vu dans la salle qu'il y a Chantal Lecantrec, qui est la présidente de l'association de Cœur sans frontières. Et petite anecdote, mais que je trouve importante de mentionner, elle a eu la médaille de l'ordre et du mérite remise par l'ambassade d'Allemagne il y a 3 semaines pour ses services et son travail rendu au sein de l'association. Et je suis très heureuse pour elle et très fière. Et pour l'association, c'est un beau geste pour cette thématique et le sujet. Donc ça a été mon entrée dans le sujet et ça a été littéralement une rencontre avec Chantal Lecantrec qui m'a permis vraiment d'entrer dans cette thématique et d'avoir des contacts avec les enfants de la guerre. Donc c'est de là que tout a commencé, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que en faisant mon mémoire de master sur les enfants de la guerre, après je suis tombée sur ces sources, sur les parents. Mais donc les deux associations m'ont vraiment permis d'avoir des contacts avec les enfants de la guerre et finalement, y a beaucoup d'enfants dans ces associations qui on retrouve pas forcément les parents dans les dossiers judiciaires. Donc c'est vraiment, ça apporte une autre vision des choses qui permet aussi d'avoir leur ressenti en tant qu'enfants de la guerre, tout ce qu'on leur, ils peuvent aussi dire tout ce que leur mère leur a, ou leur père leur a raconté après la guerre, parce que tout ça c'est des choses que je n'ai pas forcément dans les sources.
Vous avez mené combien d'entretiens ?
Des entretiens pour la thèse, je pense que j'en ai retenu 5-6, mais après il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges qui ont nourri le travail de thèse, même sans forcément être des entretiens à proprement parler. Et j'ai pu aussi faire des entretiens avec deux femmes allemandes qui ont eu une relation avec un prisonnier de guerre français. Donc l'une était âgée de 94 ans et l'autre avait 101 ans au moment de l'interview, donc c'était vraiment... très belle expérience.
On imagine, mais quelles ont été les difficultés justement de recueillir ces témoignages ?
Avec les femmes ou avec les enfants ou...
De manière générale.
Alors, je dirais qu'il n'y a pas trop eu de difficultés parce que finalement, les enfants de la guerre qui sont dans ces associations et en tout cas avec qui j'ai pu faire des entretiens étaient vraiment des personnes qui avaient envie de parler de leur histoire. Donc évidemment que ça a été des moments... Et puis c'était quand même des personnes qui parlaient de leur histoire pas pour la première fois. Donc elles étaient assez à l'aise avec le sujet, j'ai envie de dire. Elles avaient envie de raconter leur histoire. Donc évidemment, il y avait des moments avec beaucoup d'émotions, etc. Mais j'ai pas eu l'impression Enfin, je pense que c'était les personnes voulaient parler et j'ai recueilli leurs paroles. Pour les femmes allemandes, c'était deux femmes qui étaient avec à chaque fois en présence de leur enfant, enfin de l'enfant qui est né de cette union. Et je pense que c'était pas forcément elles qui avaient le désir de parler, c'était plus le contact, avec les enfants. Mais elles ont quand même parlé librement. Après, effectivement, j'ai pas avec la Ilse qui avait 101 ans au moment où j'ai fait l'interview, je ne me suis pas non plus amusée à lui demander des détails intimes sur sa relation, mais elle a quand même vraiment raconté des anecdotes et c'était très enrichissant.
Alors dans les segments de Lindsay Cotini, vous nous plongez dans une contextualisation très précise. Alors j'ai bien compris qu'il y avait dans la salle de nombreuses personnes qui connaissent très très bien ce sujet. Mais alors quand même, petit rappel, l'Allemagne est vidée de ses hommes, près de 18 millions sont mobilisés tout au long de la guerre, écrivez-vous, 1 845 000 prisonniers de guerre sont capturés en 1940, beaucoup vont servir de main d'œuvre dans toute l'Allemagne. Dans un état totalitaire, raciste, la sexualité des femmes évidemment est très contrôlée. Et le prisonnier, de fait, est aussi un double ennemi pour le Reich. Dès le 25 novembre 1939, un décret est publié. Que stipule-t-il quant aux relations entre les femmes allemandes et les prisonniers français ?
Alors, au sujet du décret, donc c'est effectivement un premier décret qui a été publié le 25 novembre 1939. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de prisonniers de guerre français dans le Reich, pour ceux qui connaissent bien les dates. Donc ce décret, c'est un décret qui interdit tout contact avec les prisonniers de guerre au sens large, donc toute nationalité confondue. Et à cette date, ça correspond plutôt à l'arrivée des premiers prisonniers de guerre polonais au sein du Reich. Et donc les prisonniers de guerre français arrivent, eux, un peu plus tard, en 1940. Et un autre décret vient compléter en fait ce décret le 11 mai 1940. Et finalement, c'est un décret, c'est très court, hein, ce petit décret. Et ça interdit tout contact avec entre la population allemande, donc ça vise pas que les femmes, c'est vraiment tout contact entre citoyens allemands et prisonniers de guerre au sens large. Et finalement, c'est un petit peu tout le flou dans ce décret, c'est que c'est pas précisé quel type de relation est à condamner, avec quel type de sanctions, etc. Et finalement, on va voir dans les dossiers que c'est laissé à au juge finalement qui choisit un petit peu les sanctions qu'ils veulent. Après, il va y avoir effectivement quand même tout au long de la guerre différentes petites ordonnances ou réglementations qui vont un petit peu apporter des précisions à ce décret. Mais finalement, ce décret-là est quelque chose d'assez, euh, assez court et assez simple. Et donc, voilà, n'est pas seulement contre les prisonniers de guerre français.
Vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions tout à l'heure à Gwendoline Ciccottini, vous aussi. Hein. Et alors, du coup, vous écrivez, de fait, de nombreuses épouses sont seules, les maris sont mobilisés, des épouses qui aussi se retrouvent à gérer absolument tout de leur existence, depuis les moyens de subvenir à leurs besoins jusqu'à ceux des enfants, en passant par évidemment tout ce qu'on imagine des tâches quotidiennes des femmes à l'époque. Et donc, elles subissent l'occupation de plein fouet. Combien d'histoires interdites ont été recensées environ ?
Alors, la question des chiffres, c'est toujours quelque chose de délicat. Moi, dans mon ouvrage, en fait, je ne cite pas de chiffres, tout simplement, parce que, en fait, la seule chose que les seuls chiffres que j'utilise dans mon ouvrage, ce sont ces dossiers judiciaires des condamnations des prisonniers de guerre français, donc sur qui concernent toute l'Allemagne, et qui sont le chiffre donc de 14 000 procès, ce qui veut dire qu'il y aurait eu au moins 14 000 affaires, relations. Après, c'est évidemment un minimum syndical, car ce sont les relations qui ont été à la fois donc découvertes et ensuite condamnées. Donc là où il y a eu un procès, parce qu'il y a eu des histoires qui ont été découvertes, mais où il n'y a pas forcément eu de procès. Et ensuite, les prisonniers de guerre, il y avait aussi d'autres formes de répression que le décret de désobéissance pour les prisonniers de guerre, ce qui fait qu'il y a eu aussi d'autres histoires, mais que je n'ai pas pu comptabiliser dans ma thèse, parce qu'au niveau des sources, je n'ai pas forcément eu accès à toutes ces archives. Mais donc, il y a aussi des condamnés. Les prisonniers de guerre ont été aussi condamnés à des... je ne sais plus le terme, mais peu importe, mais des condamnations qui se trouvent au sein du commando de travail et qui sont, où il n'y a pas eu de procès. Mais ça, on pourrait le comptabiliser. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est vraiment un minimum parce que la majorité des relations n'ont pas été découvertes. Et je pense que... Enfin, en tout cas, je ne peux pas, en tant qu'historienne, faire une estimation, car je pense que ça serait vraiment trop difficile.
En tout cas, en tant qu'historienne, vous évoquiez il y a quelques instants les Polonais, les prisonniers polonais. Ce que vous nous démontrez quand même, c'est que ces relations interdites, alors qu'il va y avoir beaucoup de prisonniers qui vont venir de l'Est, elles vont avoir davantage lieu avec des Français. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est lié au contexte, au travail, dans les usines, dans les fermes des prisonniers français, ou est-ce que c'est un charme français particulier, peut-être ?
Alors là encore, je pense qu'il y a différents facteurs. Déjà, quelque chose qui peut un petit peu, là encore, fausser les chiffres, c'est que les prisonniers de guerre polonais ont été très vite... transformés en travailleurs civils et les travailleurs, par rapport à la législation, au décret, tous les travailleurs étrangers, notamment les prisonniers de guerre russes et travailleurs polonais, avaient d'autres réglementations qui étaient spécifiques à ces groupes, ce qui fait qu'ils n'étaient pas forcément condamnés au Verboten Umgang mit Kriegsgefangenen, donc le décret relatif aux prisonniers de guerre, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait... pas de relation. Après, à quantifier, c'est difficile, mais en tout cas, la répression était pour eux beaucoup plus difficile. Alors, d'un côté, le fait que qu'il y ait une répression beaucoup plus grande, ça peut expliquer que les femmes s'engageaient aussi moins avec eux, parce que c'était plus difficile d'avoir des relations avec eux. Et ensuite, il y a aussi l'aspect racial dans l'idéologie nazie, où il y a une échelle, une catégorisation raciale, et finalement, même si les Français sont des ennemis au sein du Reich, ils sont quand même dans cette catégorisation raciale au-dessus des travailleurs polonais, russes, ce qui explique aussi donc en partie ces relations. Ensuite, il y a le fait que les prisonniers de guerre français étaient... plus en mesure d'avoir des relations avec les femmes allemandes, car ils avaient un peu plus de liberté. Il y avait notamment un décret à partir de 1941 qui les autorise vraiment à se déplacer librement et donc il n'y avait pas forcément de surveillance, donc ils pouvaient aller au travail tout seuls, ce qui fait que les contacts étaient aussi plus faciles. Et après, bon, il y a aussi des différences de statut, mais peut-être que ça, on en reviendra plus tard.
Non, non, je pense que c'est très bien si vous nous expliquez maintenant les différences de statut, parce que ça permettra ensuite de clarifier pourquoi il y a des différences telles.
Voilà, donc quelque chose aussi que, dont je parle dans le livre, qui est assez, finalement assez compliqué aussi dans les sources de trier un petit peu toutes ces informations. Donc les Français, il y a eu effectivement les prisonniers de guerre français qui sont arrivés dans le Reich. Il y a eu aussi des volontaires français au début de la guerre qui sont partis travailler volontairement dans le Reich. Ensuite, il y a eu les travailleurs civils, donc les STO. Ça a été aussi un grand groupe. Et donc, tous ces Français se mélangent finalement dans le Reich. Et ce décret de relations interdites, il vaut seulement pour les prisonniers de guerre français et pas pour les travailleurs civils. Donc, mes sources aussi, elles se concentrent vraiment sur les relations entre les prisonniers de guerre français et les femmes allemandes, ce qui ne veut pas... Enfin, il y a aussi, bien sûr, eu des relations avec des STO, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu aborder dans le livre. Et au sein même du groupe des prisonniers de guerre français, il y a aussi deux statuts. Donc, à partir de 1943, les prisonniers de guerre français ont pu obtenir le statut de prisonniers de guerre transformés. Ce qui fait qu'en théorie, ils sont censés devenir des travailleurs civils, porter des vêtements civils, avoir encore plus de liberté. Mais ils dépendent toujours de la Wehrmacht et c'est là où on voit vraiment un flou au niveau administratif et dans les sources et dans les dossiers judiciaires. C'est que dans certains dossiers, on voit que les prisonniers de guerre transformés sont quand même toujours soumis à ce décret, mais dans d'autres sources, on voit que non. Donc c'est un petit peu compliqué à démêler ces deux aspects. Mais si ça a été difficile pour moi en tant qu'historienne de démêler ces deux aspects, c'était aussi difficile pour la population à savoir, OK, si on s'engage avec un Français, est-ce que la relation finalement est interdite ou pas ? C'est assez peu clair. Après, ça peut avoir été, bien sûr, aussi des stratégies de défense dans les dossiers judiciaires.
Alors, une des nombreuses choses qu'on découvre en vous lisant, c'est que loin de séparer, le contexte guerrier a tendance à favoriser le rapprochement entre les ennemis supposés. Alors que, comme vous l'écrivez, le régime nazi repose sur un discours construit sur l'exclusion de l'autre et invite la population à se replier sur son aryanité en dressant des barrières étanches avec le monde extérieur, des citoyens dérogent aux normes en vigueur en continuant de se laisser porter par l'empathie. Le besoin de ces relations interdites, qu'est-ce qu'il traduit de leur part ?
Alors déjà, par rapport à cette séparation, c'est un petit peu un gros paradoxe dans l'idéologie nazie qui consiste à effectivement avoir, enfin basé sur cette idéologie nazie, l'exclusion totale des étrangers, vraiment une échelle raciale, ce que j'expliquais, et à la fois il y a environ 13 millions de travailleurs étrangers qui sont dans le Reich, et finalement les autorités nazies se rendent compte, enfin il y a un besoin de main d'œuvre énorme, puisque on l'a dit au début, il y a 18 millions de soldats allemands qui sont hors d'Allemagne. Donc, ils ont besoin de ces travailleurs étrangers. Et donc, malgré cette ségrégation raciale au niveau de l'idéologie, ils sont obligés de travailler avec tous les travailleurs étrangers. Et donc, bon, ça, je l'ai expliqué, il y a un petit peu cette différence selon les nationalités, ce qui fait que les prisonniers de guerre français ont été... Parce que, par exemple, les prisonniers de guerre russes étaient vraiment littéralement séparés de la population. C'était beaucoup plus difficile d'entrer en contact avec eux. Finalement, les Français, c'était un petit peu un moindre mal. Et voilà ce qui a pu aussi expliquer qu'il y a eu autant de relations avec les Français. Et je crois que j'ai oublié la deuxième partie de la question. Mais...
Non, c'est qu'est-ce que ça traduit chez eux, cette volonté de résister à ces règles ? Ceux qui vivent ces relations, qu'est-ce qui les anime ?
Alors la question des motivations de ces relations, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile à répondre. Voilà, quand on est des années après en tant qu'historien et qu'on regarde dans des sources judiciaires. Mais je pense que en observant tous ces dossiers, il y a différentes choses en fait. Je pense que donc les relations interdites aussi, il faut le dire, c'est pas l'interdiction de contact n'est pas forcément des relations amoureuses ou intimes, ça peut être aussi des relations amicales, ça peut être aussi sous la forme du troc, d'échanges alimentaires ou d'échanges de services. Et je pense que dans ce cadre-là, il y a toute une partie de relations qui sont simplement des choses assez pragmatiques, parce que finalement, les femmes allemandes et les prisonniers de guerre français, en l'occurrence, se retrouvent ensemble dans ce quotidien de la guerre et doivent essayer de s'accommoder finalement. Et après, il y a effectivement aussi toutes ces relations intimes qui, malgré finalement le contexte de la guerre, cette idéologie raciale qu'on a dit, où ces hommes et ces femmes sont finalement quand même amenés à avoir des relations malgré tout ça.
Et alors, les prisonniers étaient répartis dans toute l'Allemagne. Pour quelles raisons est-ce que vous avez concentré vos recherches sur trois Länder ?
Alors, la première raison pragmatique, c'est qu'il y avait beaucoup trop de sources et qu'il fallait faire un choix parce que, donc je l'expliquais dans le cas de mon master, j'avais d'abord regardé les sources à Berlin et bon, on pouvait facilement faire des recherches pour savoir le nombre de dossiers qu'il y avait dans chaque archive, etc. Et effectivement, il y avait énormément de dossiers à peu près partout dans l'Allemagne et en regardant la répartition des prisonniers de guerre français sur le territoire du Reich, qui n'était pas que l'Allemagne aussi, hein, parce que je parle de l'Allemagne, mais c'était plus grand que ça. Les chiffres sont assez similaires, donc il n'y avait pas spécialement de région où il y avait tellement plus de prisonniers de guerre français. Donc du coup, ce que j'ai un petit peu analysé, ça a été Berlin, Brandebourg, donc la Saxe, et donc à l'est, et à l'ouest, le Bade et le Württemberg, qui correspondaient à trois districts militaires, des Wehrkreis. Et ce choix a permis d'étudier un petit peu des régions. Donc, comme je ne pouvais pas regarder tous les dossiers, ça a permis d'étudier différents aspects, à la fois un petit peu l'aspect où il y avait peut-être un peu plus d'industrie, plus l'aspect urbain dans les grandes villes comme Berlin, et puis après l'aspect un peu plus... rural, dans les fermes. Et après, ce qui avait été intéressant aussi pour moi dans mon sujet, ça avait été d'étudier cette différence Est-Ouest, alors pas pendant la guerre, mais pour après la guerre et pour le devenir des enfants nés de ces unions, quel a été leur parcours en grandissant en Allemagne de l'Est et après pour ceux en grandissant en Allemagne de l'Ouest.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi, Gwendoline Cicottini, de concentrer vos recherches sur les relations hétérosexuelles ? Puisque j'imagine qu'il y a eu aussi énormément de relations homosexuelles.
Alors là encore, choix pragmatique, disons, dans le sens où pour se concentrer... Enfin, c'est un autre sujet, donc effectivement, ça aurait été difficile de récolter toutes ces sources. Ensuite, c'était aussi au niveau des sources. Je l'ai dit, le décret donc de relations interdites vaut pour autant pour les femmes allemandes que pour les hommes allemands. Donc, en théorie, on pourrait trouver des dossiers qui concernent des contacts entre prisonniers de guerre français et hommes allemands, mais les relations homosexuelles n'étaient pas condamnées par ce décret parce qu'il y avait un délit d'homosexualité qui existait, c'est-à-dire que si jamais... Bon, et après, c'est des choses que je n'ai pas recherchées, donc là, je ne peux pas vous dire exactement sous quel type de délit on trouverait ça. Mais en tout cas, du côté allemand, ils auraient été condamnés pour un autre délit. Et du côté des prisonniers de guerre français, il y avait un libellé. Donc dans les dossiers judiciaires qui existent aux archives nationales, je n'ai pas consulté évidemment les 21 000 dossiers qui existent, mais j'ai consulté le registre et j'ai pu faire des statistiques. Et on trouve, par exemple, je crois qu'il y a environ 40 cas d'agissement contre nature qui correspondrait à l'homosexualité. Donc en fait, ça serait tout simplement une autre entrée dans les sources et un sujet différent, mais effectivement qui a dû avoir évidemment des relations aussi homosexuelles.
Alors ces relations, elles ont lieu dans deux contextes très différents, en gros en ville ou à la campagne, et elles concernent souvent des personnes qui travaillent dans des fermes ou dans des usines. Très souvent, mais pas exclusivement. Alors à la campagne, les femmes, ça présente un certain intérêt parce qu'elles travaillent quand même plus souvent seules avec les prisonniers. Vous expliquez qu'il y a aussi de nombreux lieux qui sont davantage propices à l'intimité, évidemment. Et dans quelle mesure ça va avoir un impact sur ces relations, le lieu ? Est-ce qu'on rencontre, est-ce qu'on fréquente de la même manière quand on travaille en ville ou quand on travaille à la campagne ?
Alors effectivement, le fait d'avoir étudié autant de dossiers a permis vraiment de voir beaucoup de situations différentes. Donc chaque situation est effectivement unique, on va dire, mais on retrouve quand même des schémas assez similaires. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, à la campagne, il y a, on va dire, peut-être plus d'opportunités de rencontres car il y a moins de témoins ce qui fait que les personnes vont pouvoir avoir, et puis notamment dans les fermes, souvent les femmes sont aussi, enfin, travaillent littéralement seules, des fois avec des travailleurs étrangers, c'est-à-dire qu'à la fois il n'y a pas de surveillance, et d'un autre côté, c'est cette proximité des années durant qui va aussi faire démarrer une relation. Tandis qu'en ville, il va y avoir beaucoup plus de témoins. Donc, par exemple, dans les usines, etc., c'est beaucoup plus difficile d'échanger des mots avec des prisonniers de guerre. Mais d'un autre côté, il y a aussi un petit peu l'anonymat de la ville où il y a tellement de passages, etc., que c'est que les relations se passent quand même. Et par exemple, en ville, quand il y a des prisonniers de guerre qui sont dans la rue, même si en théorie, ils ne sont pas censés se déplacer librement, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres catégories de Français, donc comme je l'ai expliqué, finalement, ça tombe un petit peu sous le coup de l'anonymat.
Les procès, les témoignages nous font découvrir de nombreuses histoires, parfois avec des sentiments très engagés, des grossesses désirées, parfois non, des avortements. Et puis, alors ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il y a aussi des demandes en mariage et vous écrivez qu'aucune n'aboutit. Des demandes en mariage officielles.
Alors, effectivement, dans le livre, je parle de la question des mariages. Donc, c'est quelque chose qui revient quand même dans pas mal de dossiers où des femmes expliquent s'être fiancées avec un prisonnier de guerre français. Et effectivement, en tout cas, moi, j'ai pas pu, dans mes sources, déceler de cas de mariage, et en tout cas pendant la guerre. C'est possible, effectivement, qu'après la guerre, enfin, c'est sûr même qu'il y a eu des relations qui, après, ont abouti à des mariages, mais effectivement, c'était quelque chose... Alors, je pense que là, on voit aussi, bon, la différence à cette époque... s'engager dans une relation, c'était on allait très rapidement sur un mariage. Et il y a, je me rappelle d'un exemple précis d'un dossier où un prisonnier de guerre avait échangé quelques mots avec une femme allemande et l'a demandé en mariage quelques jours plus tard. Donc bon, voilà. Après, est-ce que c'était une demande sérieuse, etc. On ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que il y a eu beaucoup de demandes où les prisonniers de guerre. Donc ça, c'est dans les archives françaises de prisonniers de guerre français qui font des demandes de mariage avec des femmes étrangères. Mais là, j'ai pas pu consulter chaque dossier pour savoir si c'était avec des femmes allemandes ou si c'était parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de mariage et de mariage avéré avec d'autres femmes étrangères. Ça, c'était possible. Mais avec des femmes allemandes, au vu de ce que j'ai pu étudier, c'était pas possible pendant à cause du côté allemand de la législation nazie.
Est-ce qu'il y a des milieux sociaux particulièrement, du moins plus propices à ces relations interdites?
Moi, ma conclusion, après tous les dossiers que j'ai regardés, ça serait que non, parce qu'on trouve vraiment tous les milieux sociaux dans les sources, même si c'est quelque chose d'assez difficile à étudier via les dossiers judiciaires, parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments, mais dans les dossiers où on peut avoir des éléments là-dessus, on voit que ça concerne vraiment toutes les catégories sociales, tous les âges aussi, donc vraiment des jeunes femmes, mais aussi des femmes un peu plus âgées. Après, ce qu'on peut supposer, c'est que les femmes venant de la bourgeoisie ou ayant des contacts politiques aient pu plus facilement passer au travers d'une condamnation. Et il y a eu, par exemple, quelques dossiers où on voit que, je vous l'exemple dans tête d'un dossier, notamment où c'est la fille du maire d'une petite ville, elle a quand même été condamnée. Mais elle a été condamnée à une peine assez minime alors qu'elle avait une relation avec un prisonnier de guerre français et eu un enfant, etc. Donc je pense que ça a dû jouer et qu'il y a peut-être plus de procès des femmes venant de ces milieux sociaux qui nous ont échappé.
Mais alors, évidemment, on passe à la question de la répression, des condamnations. Et alors, les condamnations, c'est assez incroyable. Vous disiez tout à l'heure que ça varie énormément. Et alors là, la grande stupéfaction, quand même, en lisant votre essai, c'est à quel point les instructions des procès sont extrêmement détaillées. Les peines varient en fonction parfois même des positions sexuelles. Et des lieux, évidemment, mais considérablement selon ce qu'on fait.
Alors, dans votre question, il y a deux choses. Donc, il y a le côté à la fois des sanctions et à la fois des détails dans les dossiers judiciaires sur la sexualité des femmes allemandes. J'aimerais d'abord dire un mot sur les sanctions de manière générale. Donc, effectivement, je disais que c'était très varié parce que c'était assez flou, finalement, cette législation. Et un but aussi, en étudiant différentes régions, etc. Donc, il y a différents tribunaux qui sont... Qui ont été analysés, ça avait été aussi pour moi, enfin une des questions au début de la thèse, c'était de se dire est-ce qu'il y a des différences en fonction des juges, mais enfin selon les tribunaux, selon les juges, selon les régions, etc. Et finalement, on voit que c'est assez, on voit pas de schéma qui se dégage spécifiquement. Donc on voit que ça dépend vraiment, ou alors après il faudrait faire une étude poussée de chaque juge, quelles sanctions il donne, etc. Mais ça c'est des choses que j'ai pas pu faire, mais on voit que vraiment la fourchette est très large et des fois il y a des femmes qui sont condamnées plus sévèrement, d'autres moins, selon des critères qui varient beaucoup. Et donc, la question... Alors, peut-être pour donner une idée aussi des...
Mais oui, parce que là, c'est un petit peu abstrait.
C'est un peu abstrait. Donc, on peut avoir des sanctions qui vont vraiment d'amende, finalement, à des peines de prison. Alors, on va dire qu'en moyenne, ça va être des peines de prison de 1 ou 2 ans. Et après, il y a un autre mode de détention qui est ce que j'appelle travaux forcés en français, en allemand c'est la Zuchthaus, qu'on peut difficilement traduire, qui est un centre pénitentiaire avec des conditions de vie, beaucoup, des conditions de travail, etc., beaucoup plus strictes que la prison. Et donc pour les, c'est-à-dire qu'avoir une peine de travaux forcés, c'est déjà en soi une peine plus sévère qu'une peine de prison. Et là, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 ans. Et finalement, les peines les plus sévère, c'est quand il y a une aide à l'évasion. Donc, c'est-à-dire que l'aspect politique, finalement, prime au-delà des relations. Et pour les prisonniers de guerre français, qui sont condamnés, du coup, par les tribunaux militaires et par la justice militaire, donc c'est pas le même cadre, ils sont condamnés en moyenne à 3 ans de prison militaire, ce qui est finalement même un peu plus strict, finalement, que les femmes. Après, je ne sais pas si je peux aborder là, à ce moment-là le point de la question des camps de concentration, évidemment, parce que c'est évidemment un sujet important. Et finalement, moi, ce que j'ai fait le constat en travaillant sur les relations entre les femmes et les prisonniers de guerre français, c'est qu'il y avait assez peu de femmes qui ont été en camp de concentration pour des relations avec des Français, chose qui est assez différente avec des femmes qui ont eu des relations avec des travailleurs polonais, par exemple. C'est une situation tout à fait différente. Après, là encore, c'est difficile dans les sources, car il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et finalement, les femmes qui vont en camp de concentration, elles n'ont pas de procès. Donc, du coup, on ne retrouve pas forcément ces sources-là. C'est pour ça que ça veut, voilà, ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, mais ça échappe un petit peu au radar. Et par exemple, au camp de concentration pour femmes à Ravensbrück, il y avait une liste d'environ une centaine de femmes qui étaient internées pour avoir eu une relation avec un Français, mais on pouvait pas différencier si c'était des travailleurs civils ou des prisonniers de guerre. Et sachant qu'avec des travailleurs civils, il y a le délit de relation interdite ne vaut pas, ça peut être un moyen de condamner ces femmes qui ont eu des relations avec des STO quand même.
Et la question de la maternité, est-ce que le fait de devenir mère d'une de ces relations alourdit les peines ou pas ?
Alors c'était aussi une question évidemment au début de mes recherches de savoir si le fait d'avoir un enfant avec l'ennemi, si ça avait un impact sur les condamnations. Et statistiquement parlant, alors évidemment des chiffres on peut toujours contester, mais statistiquement parlant, on voit pas spécialement de grandes différences. Ce qui fait une différence dans les condamnations, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle ou pas. Ça influence vraiment sur la condamnation, mais le fait d'avoir eu un enfant finalement ne rend pas la peine spécialement plus sévère.
Puis alors vous racontez, photo terrible à l'appui, que certaines femmes vont être tondues, bon, j'allais dire comme en France. Et puis aussi, elles vont être mises en cage et exposées au public comme des animaux ou comme la représentation qu'on a des sorcières des temps jadis. Ces sortes de peines populaires, elles relèvent de la justice. Comment ça s'organise? Est-ce qu'on a une idée de combien il y en a eu? Est-ce qu'il y a des périodes qui ont été plus favorables à ce genre d'action?
Alors effectivement, c'est un parallèle intéressant avec les femmes tendues en France, mais du coup, c'est pas vraiment c'est pas la même période déjà. Donc, les femmes tendues en Allemagne, ça se passe plutôt au début de la guerre. Et il y a même un décret de Himmler qui interdit les tondes des femmes en 1941, donc les tondes des femmes allemandes. Bon, il y a des sources qui montrent que ça a quand même eu lieu, mais ça a quand même été... il y avait vraiment une réglementation là-dessus. Il y a très peu de sources, donc c'est assez difficile de répondre à la question de si ça avait été répandu ou pas. Je sais que dans les entretiens avec les deux femmes que j'ai menées, c'était vraiment quelque chose... qui était très présent dans l'entretien. Si on avait une relation avec un étranger, on allait être tendu, etc. Mais elle-même n'avait pas vu de d'autres femmes tendues, mais c'était vraiment dans leur imaginaire, enfin dans leur tête. Et par rapport aux sources que j'ai pu trouver, il y a effectivement une source qui est très impressionnante. C'est une scène qui s'est passée à Oschatz, près de Leipzig, en Allemagne de l'Est. Et il y a effectivement une cage, une petite cage, et il y a des photos et il y a même un film. Donc je pense que c'est la seule source que je connaisse à ce sujet-là qui montre un film. Et donc littéralement une femme, il y a eu deux femmes, il y a eu des photos de deux femmes qui ont été dans cette cage. Une femme qui avait une relation avec un travailleur polonais et une femme qui avait une relation avec un prisonnier de guerre français. Mais cela n'a évidemment rien à voir avec la justice. Par exemple, dans ces deux exemples-là de femmes tendues, l'une n'avait pas du tout été condamnée et au moment où elle a été dans cette cage et après coup non plus. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment des choses qui se passaient en dehors de la justice. Et comme je l'explique, il y avait même cette interdiction. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment pas... C'était de la vindicte populaire. Et dans ce film et sur ces photos, c'est vraiment des images assez impressionnantes parce qu'on voit vraiment... la foule qui vient, mais en film, c'est encore plus impressionnant, je trouve, avec les petits enfants qu'on met bien devant pour qu'ils voient bien la scène et qui sourient et qui sont finalement voilà, contents d'assister à cette scène. Donc, c'est des choses assez, assez troublantes.
Et alors, on ne peut malheureusement pas parler de tout, et puis je suis sûre que la salle brûle aussi de vous poser des questions, Gwendoline Cicottini. Mais dans votre essai, il y a aussi des témoignages qui sont très étonnants, parce que bon, le régime nazi cherche évidemment à contrôler énormément le corps des femmes. Il faut produire de bons petits ariens, de bonnes petites ariennes, avoir de bonnes relations bien hétéronormées, etc., etc. Et donc les femmes qui sont condamnées partent, quittent leur foyer. Et il y a à plusieurs reprises des témoignages ou des lettres de maris qui écrivent à leurs épouses qu'ils leur pardonnent absolument tout, qu'ils sont très impatients qu'elles reviennent, qu'ils acceptent de ne jamais, notamment une lettre où un mari écrit à son épouse « Je ne t'en parlerai jamais, j'ai hâte que tu reviennes, je t'ai pardonné, c'est du passé, c'est terminé, n'en parlons plus. » Alors, on peut se demander parfois quelles étaient les motivations de ces maris. Est-ce qu'il y avait vraiment pardon? Enfin, j'imagine qu'il y a autant de réponses que de cas. Parfois, il devait y avoir du pardon, parfois, il devait y avoir un mari excédé de se retrouver avec trois gosses tout seul et qui se disait vivement qu'elle revienne et pourvu qu'elle ne parte pas avec son français. Mais vous parliez au début de notre entretien des enfants franco-allemands. Est-ce qu'un prolongement de ce travail pourrait être justement de travailler sur après la guerre, sur la façon dont ces femmes et ces hommes ont vécu après ces relations interdites, condamnées?
Alors, ça a été une grosse partie du travail de thèse, de travailler sur l'après, notamment avec les entretiens avec les enfants de la guerre et bon, ces deux femmes, etc. Il faut dire que le livre a été fortement réduit, coupé de moitié. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très courant dans quand on fait une thèse, on écrit beaucoup trop. Et donc, le livre, j'ai dû réduire dans le livre une grosse partie sur l'après-guerre. Mais effectivement, dans la thèse, en tout cas, ça a été évidemment un gros sujet. Après, c'est évidemment quelque chose qui a été plus difficile à aborder, puisque les dossiers judiciaires, forcément, s'arrêtent au moment. Des fois, on a des dossiers les dossiers pénitentiaires, donc on suit un petit peu les femmes en prison, mais après, les dossiers s'arrêtent. Et donc, cette étude sur l'après-guerre, on peut la voir grâce finalement seulement aux témoignages d'enfants de la guerre. Et il y a évidemment quelques dossiers qui peuvent nous aider après la guerre, mais finalement ça reste qu'à travers des témoignages d'enfants de la guerre. Mais donc oui, ça a été une partie du travail. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus?
Je ne sais pas. Merci beaucoup. En tout cas, quelles questions auriez-vous à poser à Gwendoline Cicottini? Oui, monsieur.
D'abord, merci, c'était passionnant. Et mon interrogation prolonge la dernière question qui a été portée sur l'après-guerre, au sens où elle porterait plutôt sur l'avant-après-guerre. C'est-à-dire qu'on vous écoute en connaissant l'issue de la guerre. Ce n'était pas forcément le cas des protagonistes, certainement pas le cas. Et ma question est, si tant est qu'on puisse le savoir, dans quelle mesure l'idée que l'un ou l'autre des protagonistes se faisait de l'issue de la guerre, la conviction que c'est l'Allemagne qui l'emporterait ou, au contraire, la France a pu peser, motiver, orienter ses relations interdites. Est-ce que vous voyez le sens de mon interrogation ?
Non, pas vraiment.
Alors, au moment où la relation interdite se noue, sait-on ce que les protagonistes avaient en tête quant à l'issue probable de la guerre ? Est-ce que pour adopter le point de vue de la femme allemande, on pourrait faire le même exercice en adoptant le point de vue du prisonnier français. Est-ce qu'il y avait eu, à un moment donné, l'idée que le prisonnier français pouvait être tout prochainement se retrouver dans le camp des vainqueurs ? Et dans quelle mesure ça a pu peser, orienter la relation ?
Alors, merci, je comprends la question maintenant. C'est quelque chose de très difficile à déterminer parce que bon voilà, les sources sont ces dossiers judiciaires, donc des fois effectivement on a quand même des témoignages directs dans les procès-verbaux, etc. Mais on n'est pas dans la tête des gens, donc c'est assez difficile. Mais il y a quand même quelques éléments. Alors après, là encore, est-ce que ce sont des stratégies de défense, etc.? C'est un petit peu peut-être difficile à dire, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques prisonniers de guerre, alors dans quelques cas, dans les procès, qui disent que de toute façon, enfin qui disent littéralement qu'ils soutiennent le régime nazi et qui veulent s'engager dans la j'ai oublié le nom de l'armée SS où les Français pouvaient aller, ça m'échappe, mais voilà. Donc ça on le retrouve. Et par rapport aux femmes oui, mais après sinon la seule chose par rapport à l'issue de la guerre, donc je pensais que c'était plutôt ça la question, ce qu'on retrouve quand même beaucoup c'est cette idée d'après la guerre, mais c'était avec l'idée que la guerre allait se terminer et qu'ils allaient pouvoir être ensemble. Et donc ces questions aussi de mariage dont on a parlé un petit peu avant, souvent c'était, puisque c'était pas possible pendant la guerre, il y a eu aussi beaucoup de fiançailles ou alors de promesses de mariage pour après la guerre. Alors après, est-ce que c'était concret ? Et voilà, ça c'est, on ne peut pas savoir, mais voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour votre livre et pour votre intervention. Je voulais savoir, dans la France de Vichy, les femmes de prisonniers de guerre adultères étaient punies plus sévèrement. Et je voulais savoir si le métier du mari, quand les femmes étaient mariées, les femmes allemandes mariées, est-ce que la profession du mari conduisait à des condamnations plus importantes ? Par exemple, si le mari était officier, est-ce que la condamnation de l'adultère de la femme était plus pénalisée que si le mari allemand était ouvrier ou d'un autre métier ? Merci.
Alors, merci pour votre question. Effectivement, le fait... Alors ça fait partie, évidemment, des circonstances aggravantes. Alors, pas tellement le métier, mais en tout cas, le fait d'être dans l'armée et dans la SS tout particulièrement, était évidemment une condition, une circonstance aggravante dans les sanctions. Après, bon, c'est difficile de dire exactement. Et puis après, il y a d'autres circonstances sur un cas qui peuvent jouer, mais c'était quand même, c'est quelque chose de récurrent si le mari est au front ou alors au front de l'Est plus particulièrement, là c'était encore une circonstance. Donc ça jouait quand même un rôle dans les procès-verbaux et dans les jugements.
J'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique des veuves en particulier? Parce qu'on parle beaucoup des maris là, mais est-ce que, enfin, il y a beaucoup de maris qui meurent précisément dans ces années-là. Est-ce que, je sais pas, dans les procès spécifiquement, est-ce qu'on dit bah oui, bah, elle était veuve, donc ou alors justement ça a aucun rôle parce qu'elle est quand même allemande et voilà.
Merci pour votre question. Effectivement, alors pour rejoindre les questions des circonstances aggravantes, etc. On va dire que, comme je dis, chaque cas est un petit peu différent, etc. Mais dans des schémas assez récurrents, le fait d'être une femme mariée, tout court, c'est une circonstance aggravante. Le fait d'avoir un mari au front, c'est une circonstance aggravante. Le fait d'être une jeune fille célibataire ou d'être veuve, ça a effectivement aussi une conséquence sur la peine. Après, bon, c'est vrai que ça peut être dérisoire de dire, ah, finalement, elle a eu seulement un an de prison au lieu d'un an et demi. Enfin, je pense que la condamnation est quand même terrible dans tous les cas. Mais effectivement, c'est une question. Et il y a même, parce qu'on parlait aussi de ces questions de sexualité, de ces détails sexuels qui reviennent dans les dossiers judiciaires, à plusieurs reprises, il y a aussi la question de, et c'est surtout pour des femmes veuves justement, ou alors des femmes mariées dont le mari ne revient jamais, ou alors pour les femmes veuves où on parle de détresse sexuelle et qui est un petit peu une circonstance, qui adoucit un petit peu la peine. Alors comme je dis, ça reste des peines très strictes, mais c'est quand même une question dans les jugements. Donc oui, ça joue un rôle.
Bonsoir et merci beaucoup pour l'échange et pour le livre. J'ai peut-être deux questions, mais non, je vais commencer par une. Je voulais demander si, notamment dans les sources, vous étiez tombé sur des traces d'intercession des différents organismes chargés des prisonniers de guerre français. Donc voilà, cherchant à intercéder en faveur notamment des prisonniers incriminés. Et si je puis me permettre, je voulais savoir s'il y avait aussi des éléments concernant peut-être des prisonniers de guerre français, juifs, coloniaux, indigènes. Dans quelle mesure est-ce que l'identité raciale pouvait avoir aussi une incidence sur les sanctions? Merci beaucoup.
Merci pour votre question, pour les deux questions qui sont très intéressantes. Je vais commencer par la deuxième. Il faut savoir que les prisonniers de guerre français indigènes ont été, il y en a très peu qui ont été en Allemagne. Ils sont restés en France pour des raisons raciales. De l'idéologie nazie, ce qui fait qu'il y a eu assez peu dans les dossiers. Ça a été, enfin, oui, il y a très peu de dossiers qui traitent ce genre d'affaires. Mais j'ai trouvé quelques dossiers avec, alors plutôt des prisonniers de guerre d'origine marocaine, qui ont peut-être échappé à cette ségrégation de les faire revenir en France. Mais après, c'est des dossiers. Enfin, voilà, c'est vraiment quelques cas que j'ai pas pu spécialement approfondir. Mais dans ces quelques dossiers, il y a effectivement. Je me rappelle plus si les peines étaient plus sévères. Et comme c'était vraiment que quelques cas, c'est difficile de dire. Mais en tout cas, ils étaient vraiment définis comme personnes de couleur avec les termes utilisés à l'époque. Ça jouait quand même aussi un rôle dans en tout cas dans l'appréciation des juges. Après, voilà, dans les jugements, etc., les sanctions, je peux pas dire. Et ensuite, par rapport, les prisonniers de guerre français, il y a eu, alors dans les dossiers des femmes, il y a des fois j'ai beaucoup les mots qui me viennent en allemand, je suis désolée, mais là, le prisonnier de guerre qui fait son témoignage, sa déposition. Donc, on retrouve quelques éléments, mais c'est vrai que dans les dossiers allemands, finalement, bon, il y a assez peu de choses sur tout ce qui se passe en France, mais dans les dossiers que j'ai retrouvés en France, qui sont des copies des dossiers allemands, donc les dossiers sont aussi en allemand, mais on a quand même là plus de traces aussi, puisque ça a été transmis en fait à la mission Scapini, au service Scapini. Et donc, bon, après, il y a quelques exemples concrets. Par exemple, il y a l'exemple aussi d'un prisonnier de guerre qui a été, d'un prisonnier transformé qui a été envoyé en camp de concentration par erreur, entre guillemets, puisque normalement, il aurait dû être condamné au délit de désobéissance et donc aller en prison militaire, etc. Et là, en fait, son avocat et les services de la mission Scapini essayent de le sortir de là. Donc, il y a quelques... Et puis après, il y a évidemment les avocats donc des prisonniers de guerre. Donc, via ces documents, on a quand même quelques traces, mais ça reste... Voilà, en tout cas, ça concerne aussi seulement les archives qui se trouvent en France et ça reste assez lacunaire.
Bonjour, merci pour votre intervention et merci pour votre médiation. J'ai une question rapide et une question un peu plus globale. La première, c'est que vous avez parlé à un bon moment des prisonniers, donc des hommes, et des prisonniers français qui avaient plus de liberté. Et donc, je voulais savoir pour quelles raisons. Est-ce que c'était à cause de la politique raciste? Et pour ça, je pense aussi à Camille Faurou, qui a écrit sur les travailleuses civiles françaises volontaires, qui... elles, donc, de par qu'elles étaient donc des Françaises, avaient plus de liberté en tant que travailleuses. Donc, je voulais savoir si c'était à cause de la politique raciste. Et ensuite, de façon un peu plus, pas globale, mais peut-être un peu plus théorique, on parle quand même d'une temporalité en temps de guerre, donc on est en temps de crise. Donc, on pourrait parler aussi d'une bulle temporelle de brouillage de genre à cette époque, dont on n'a pas encore trop parlé ce soir. Et dans cette bulle-là, j'aurais plein de questions, mais je vais en poser qu'une pour l'instant. Est-ce que ce serait possible de discerner une forme de politisation ou un aspect politique dans ces actes de relations sexuelles ou non de ces femmes avec les hommes? Est-ce qu'elles sont politisées d'une certaine façon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une forme de remise en cause, de question ou de lutte contre le système et l'idéologie nazie?
Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre rapidement à la première. Alors, plus de liberté, c'est effectivement à la fois au niveau de la politique raciale, mais c'est aussi au niveau politique, tout simplement à cause de la coopération avec Vichy, qui fait que, du point de vue des autorités, les Français avaient plus de liberté. On ne pouvait pas trop mal les traiter, même si ça restait des ennemis. Et donc, j'ai expliqué qu'en 1941, il y avait aussi vraiment une ordonnance qui leur permettait, dans les faits, voilà, d'avoir plus de liberté. Ensuite, la deuxième question... Oui, alors c'est une grande question, effectivement, que je me suis posée tout au long de la thèse et que j'aborde dans le livre. Et voilà, c'est une question très difficile parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, donc c'est difficile, voilà, de voir ses motivations. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que ces femmes ont été à l'encontre des injonctions nazies, donc... d'aller à la fois vers un ennemi militaire, puisque c'était des prisonniers de guerre, mais aussi vers cet ennemi racial. Mais après, je pense, voilà, que donc ce que j'expliquais avec au niveau de les prisonniers de guerre français, ils avaient plus de liberté au niveau de la politique raciale et à la fois administrative, mais ça se joue aussi dans la population, où finalement on retrouve aussi dans pas mal de dossiers où des femmes disent, ah ben je pensais que les Français c'était plus des ennemis parce que il y a des Français qui se battaient pour la Légion SS, dont j'ai oublié le nom qui m'échappe, mais voilà, où, dans le bataillon où ils pouvaient se battre parce qu'il y avait des prisonniers de guerre, des travailleurs civils avec lesquels ce n'était pas interdit. Donc tout ça, mais aussi la confusion dans la tête des gens, et quand même aussi une hypothèse par rapport à ce qu'on expliquait aux travailleurs étrangers polonais, etc. Finalement, le fait d'avoir une relation avec un Français, c'est peut-être aussi déjà là un choix racial. C'est-à-dire qu'effectivement, un choix raciste, c'est se mettre, aller avoir une relation avec un ennemi racial, mais finalement, c'est un ennemi moins dangereux aussi du point de vue des autorités que les travailleurs polonais ou russes.
Merci beaucoup. J'ai une question sur le sort des enfants. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir ce qui leur est arrivé tout de suite pendant la guerre, quand leurs parents ont été condamnés à prison ou autre, Zuchthaus. Et aussi, comment les deux sociétés allemandes les ont traités dans la dans les post-guerres des deux pays et comment leur mère leur ont présenté leur origine.
Alors, merci pour votre question. C'est pour. Vous pouvez répéter la première partie de la question. Ah oui, traité pendant la guerre. Donc, quand les femmes ont été emprisonnées, donc il y a différentes configurations. Des fois il y avait un mari allemand qui était là, donc des fois il restait avec leur père. Enfin, le père supposé, puisqu'aux yeux de la loi, les enfants étaient les enfants, puisque c'était des enfants illégitimes, donc s'il y avait un mari allemand, les enfants étaient dépendaient du mari allemand. Mais la plupart du temps, ils ont été soit dans des foyers, alors soit pour le temps de la guerre, soit vraiment abandonnés. Mais ça, c'est très difficile à comptabiliser combien d'enfants ont pu être abandonnés, parce que souvent dans les dossiers, il y a écrit que les enfants sont dans des foyers. Mais je le sais aussi par des témoignages, etc., d'après-guerre, que des fois, c'était temporaire. C'était juste parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper des enfants. Donc, ils étaient là vraiment le temps de la condamnation. Mais certains ont bien sûr été abandonnés définitivement. Et sinon, les enfants allaient dans la famille de la femme allemande, donc une mère, une sœur. Ensuite, pour le traitement après la guerre... Alors, il y a eu une courte période après la guerre où il y avait l'occupation française en Allemagne, et il y a eu une phase où le gouvernement français a essayé de récupérer les enfants français en Allemagne. Donc, ça concernait aussi bien les enfants nés des soldats de l'occupation française que les enfants qui ont pu être conçus pendant la guerre. Donc il y a eu cette phase là où il y avait vraiment ce gouvernement français qui essayait de rapatrier des enfants, mais je dirais que après cette phase, finalement, le gouvernement allemand, bah en fait, il s'en est pas vraiment occupé de ces enfants. Enfin, et la plupart des enfants ne connaissaient pas eux-mêmes leur origine. Donc ça, c'est un petit peu un début de réponse pour votre dernière question sur comment les mères allemandes leur ont présenté leur origine. Il y en avait beaucoup, finalement, ils ont su que très tard leurs origines, ce qui fait que pendant tout le temps de l'après-guerre, ils étaient... Alors, soit ce sont des femmes qui ont épousé quelqu'un et l'enfant a été reconnu, soit ce sont restées... Il y a beaucoup de femmes qui sont restées mères célibataires. Mais il n'y a pas eu vraiment de traitement spécifique par l'État. Et après, pour la question des mères à leurs enfants, là, il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Donc, je pense que la majorité des femmes se sont tues. Mais il y a des femmes qui ont dit depuis toujours, tu as un père français, etc. Ça, c'est vraiment assez aléatoire.
Oui, merci beaucoup, Gwendoline, pour ce livre passionnant. J'avais également une question concernant les enfants. Donc là, les réponses ont été apportées. Je me demandais, par ailleurs, ce qui pouvait faire qu'une relation interdite donc soit poursuivie à un moment. Est-ce que ça fonctionnait beaucoup sur le système de la délation? Est-ce que c'était une grossesse au moment où on pouvait vraiment plus la cacher qui opérait la délation, si on peut dire, enfin qui trahissait ce qui s'était passé, sachant qu'on était très précis dans le calcul des retours des maris du front. Comment se passait ce moment-là, la plupart du temps?
Alors effectivement, ça n'a pas encore été abordé ce soir, mais il y a eu énormément de... Enfin, les relations étaient dénoncées. Alors soit parce qu'il y a eu un flagrant délit, ça arrivait aussi beaucoup, surtout dans les entreprises, parce qu'il y avait beaucoup de témoins. Mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est de la délation. Après, la grossesse, effectivement, c'est le moment où on peut plus cacher ça. Donc, on voit beaucoup dans les dossiers de femmes qui disent, ah, c'était un soldat allemand, ou parce qu'effectivement, les maris, des fois, on savait très bien qu'il n'était pas rentré à ce moment-là, donc ça pouvait pas être lui. Et après, dans la délation, ça, c'est difficile à suivre parce que ça dépend vraiment la taille du dossier. Mais des fois, on peut vraiment suivre qui a dénoncé. Il y a vraiment des différentes personnes qui sont entendues, etc. Et il y a aussi beaucoup de cas, comme pendant la Seconde Guerre mondiale de manière générale, où c'était finalement aussi beaucoup de règlements de compte.
Merci. C'est au sujet d'une peine complémentaire, c'est-à-dire la déchéance de nationalité. Ma belle-mère, enfin ma future belle-mère, le beau bébé CL, elle a été déchue de sa nationalité allemande pour assistance à prisonniers français. Elle a été réintégrée d'ailleurs à la soixantaine venue. Et on lui a, elle était devenue française, bien sûr, par mariage avant. Et on lui a même proposé des concours à passer. Y a-t-il beaucoup de déchéance de nationalité de ces jeunes femmes qui aident les prisonniers? Ça renvoie un peu à la question politique, là.
Une autre merci pour votre question d'abord. Et une autre des conséquences dans les sanctions, c'était la perte des droits civiques. Donc ça allait quasiment tout le temps de pair avec une sanction en prison ou sur house. Après la déchéance de nationalité, j'avoue que dans les dossiers que j'ai consultés, j'ai pas eu forcément ces cas-là. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui a peut-être pu se passer. Ça a peut-être. C'est comme la question des divorces. On me demande souvent est-ce qu'il y a eu des divorces, est-ce que les maris ont divorcé, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas dans les dossiers de relations interdites, car c'est un autre. Ça serait un autre délit, un autre dossier, etc. Donc moi, dans les cas que j'ai pu suivre, j'ai pas observé ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, voilà. Mais c'est des choses que j'ai pas pu observer. Ok, et donc voilà, mais donc du coup c'est un autre délit aussi, voilà, c'est ça, c'est que ça a dû renvoyer.
Alors moi j'avais une question, merci Gwendoline. J'ai vu qu'il y avait donc des photos dans ton ouvrage, des photos de ces prisonniers, un peu des clichés pris sur le vif, comme ça, un peu à la sauvette. Donc c'est des clichés que tu as trouvés dans les archives judiciaires, donc qui ont servi à incriminer ces femmes comme des preuves, voilà. Mais si on lit ces photos un peu d'une autre manière, de l'agentivité de ces femmes et de leur contenu politique, est-ce qu'il y en a beaucoup déjà? Et est-ce que ça permet un peu de retrouver l'agency de ces femmes et de ce qu'elles photographient exactement, sous quel jour elle mettait ces hommes, voilà, on voit du désir, enfin, dans celles en tout cas qui sont incluses, que tu as choisi d'inclure, voilà, torse nu, etc. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de leur regard aussi, et de leur regard politique dans cette Allemagne nazie qui pourrait être creusée aussi, ou, enfin, ça en dit long sur elle aussi, sur ces femmes.
Alors effectivement, il y a ces photos dont tu parles dans le livre. Après, c'est vrai que ça reste quand même, enfin ces photos en tout cas prises sur le vif, ça reste l'exception. Enfin, ouais, il y a quelques exceptions de photos similaires. Mais ceci dit, j'ai en tête d'autres photos ou dans d'autres cas où il y a encore aussi un homme torse nu. Mais c'est bon, c'est parce qu'il travaillait comme ça dans les champs, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les photos qu'on trouve dans les dossiers, souvent c'est plutôt des photos. Qu'on appelle ça, des photos d'identité, etc., qui s'est changé. Donc c'est vrai que les photos prises sur le vif pendant la guerre, dans les dossiers, il y en a assez peu, mais en tout cas celle-ci, cet exemple en particulier, est assez flagrant. Enfin, c'est ce que je disais dans le livre et que je trouve aussi d'un regard assez particulier, parce que comparé aux autres photos dont je parle là, c'est vrai qu'on voit vraiment, bon, le prisonnier de guerre est en train de travailler finalement. Là, c'est un petit peu différent. Après, la question de la politisation du regard des femmes, c'est aussi une grande question. Est-ce que c'est politique d'avoir eu ces relations, ou est-ce que c'est finalement aussi seulement des relations humaines? Et est-ce que le fait d'avoir une relation humaine avec un ennemi en fait un acte politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un acte politique de la part de ces femmes de s'engager dans ces relations? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose après coup dont on peut parler, c'est-à-dire que même elles, si elles ne s'en rendent pas compte, ont quand même agi, voilà, à l'encontre du régime. Et peut-être qu'on peut conclure là-dessus, parce que je trouve ça que c'est une assez belle citation, mais dans une de mes interviews avec les deux femmes allemandes, à un moment donné, c'était une interview que j'avais fait avec une de mes collègues, on lui a demandé, mais tu te rends compte, c'était interdit, et il y a vraiment la conscience de des femmes tendues, etc., et t'as fait quand même ça? Et elle a dit oui, et alors?
Merci beaucoup Gwendoline Cicottini. Donc vous pouvez bien sûr échanger un petit peu avec Gwendoline et puis vous procurer son livre juste à côté. Merci beaucoup.